Alphonse de Lamartine, Jocelyn, deuxième époque, séminaire de 1er janvier 1793. 6 ans sont retranchés des jours de mon âge, sans qu'une seule trace ait marqué leur passage. Nuit, jour, matin et soir, veilles et lendemains, furent des pas égaux dans un même chemin. Je n'ai senti ces jours qu'en calculant leur nombre. Leur cloître au noir pilier m'a caché dans son ombre. De ma haute cellule au cœur mélodieux, les dalles ont compté mes pas silencieux. La méditation, la prière et l'étude ont engourdi mes sens dans leur froide habitude. Ces corridors obscurs, ces nefs, ces murs épais, ont versé sur mon front leur silence et leur paix. Les souvenirs cuisants, les regrets, les images de liberté, d'amour, de riants paysages, ont peine jusqu'ici dans mes nuits pénétrées. De la paix du Seigneur, tout y s'est peint par degrés, comme par des vitraux que le pinceau colore, se teignent dans la nymphe les clartés de l'aurore. Qu'il est doux dans son Dieu de refermer son cœur, comme un parfum dans l'or pour en garder l'odeur, d'avoir son but si haut et sa route tracée, et de vivre 6 ans d'une même pensée. Aussi blanche est la page où je notais mes jours, qu'aurais-je écrit? Ce Dieu que je servis toujours, le soin de ses autels, le goût de ses demeures, ont du même aliment nourri toutes mes heures. Et sa main, à ma main ouverte constamment, m'a dirigé sans chute et sans événement. Ah, grâce aux passions que mon cœur se retranche, puisse toute ma vie être une page blanche. 18 février 1793. Souvent, lorsque des nuits l'ombre que l'on voit croître de piliers en piliers s'étend le long du cloître, quand, après l'angélus et le repas du soir, les lévites épars sur les bancs vont s'asseoir, et que chacun, cherchant son ami dans le nombre, on épanche son cœur à voix basse et dans l'ombre. Moi qui n'ai point encore entre eux trouvé d'amis, parce qu'un cœur trop plein n'aime rien à demi, je m'échappe, et cherchant ce confident suprême, dont l'amour est toujours égal à ceux qu'il aime, par la porte secrète en son temple introduit, je répands à ses pieds mon âme dans la nuit. Oscillant, oscillant, lorsque plus jeune encore je rêvais des brouillards et des monts d'Isidore, quand tes vers dans le cœur et la harpe à la main, je m'enfonçais l'hiver dans des bois sans chemin, que j'écoutais siffler dans la bruyère grise, comme l'âme des morts le souffle de la bise, que mes cheveux fouettaient mon front, que les torrents, hurlant d'horreur au bord des gouffres dévorants, précipités du ciel sur le rocher qui fume, jetaient jusqu'à mon front leurs cris et leur écume. Quand les troncs des sapins tremblaient comme un roseau et secouaient leur neige où planait le corbeau, et qu'un brouillard glacé, rasant ses pics sauvages, comme un fils de Morven me vêtissait de rage. Si quelque éclair, soudain, déchirant le brouillard, le soleil ravivé me lançait un regard, et d'un rayon mouillé qui lutte et qui s'efface éclairait sous mes pieds l'abîme de l'espace, tous mes sens exaltés par l'air et par des lieux, par cette solitude et cette nuit des cieux, par ces sourds roulements des pins sous la tempête, par ces frimas glacés qui blanchissaient ma tête, montaient mon âme au ton d'un sonore instrument, qui ne rendait qu'extase et que ravissement. Et mon cœur à l'étroit battait dans ma poitrine, et mes larmes tombaient d'une source divine. Et je prêtais l'oreille, et je tendais les bras, et comme un insensé, je marchais à grands pas, et je croyais saisir dans l'ombre du nuage l'ombre de Jéhovah qui passait dans l'orage. Et je croyais dans l'air entendre un long écho sa voix que la tempête emportait au chaos. Et de joie et d'amour, noyé par chaque port, pour mieux voir la nature et mieux m'y fondre encore, J'aurais voulu trouver une âme et des accents, et pour d'autres transports, me créer d'autres sens. Ce sont de ces moments, dit l'effable délice, dont Dieu ne laisse pas épuiser les calices, des éclairs de lumière et de félicité qui confondent la vie avec l'éternité. Notre âme s'en souvient comme d'une pensée rapide dont en songe elle fut traversée. Ah, quand je l'ai goûtée, je ne me doutais pas qu'une source éternelle en coulait ici-bas. Eh bien, quand j'ai franchi le seuil du temple sombre, dont la seconde nuit m'ensevelit dans l'ombre, quand je vois s'élever entre la foule et moi ces larges murs pétris de siècles et de foi, quand j'erre à pas muet dans ce profond asile, solitude de pierre, immuable, immobile, image du séjour par Dieu lui-même habité, où tout est profondeur, mystère, éternité, quand les rayons du soir que l'Occident rappelle éteignent aux vitraux leur dernière étincelle, qu'au fond du sanctuaire un feu flottant qui, lui, scintille comme un œil ouvert sur cette nuit, que la voix du clocher en son doux s'évapore, que le front appuyé contre un pilier sonore, je le sens tout ému du retentissement, vibrer comme une clé d'un céleste instrument, et que du faîte au sol l'immense cathédrale avec ses murs, ses tours, sa cave sépulcrale, tel qu'un être animé semble à la voix qui sort, tressaillir et répondre en un commun transport. Et quand, portant mes yeux des pavés à la voûte, je sens que dans ce vide une oreille m'écoute, qu'un invisible ami, dans la nef épandue, m'attire à lui, me parle un langage entendu, se communique à moi dans un silence intime, et dans son vaste sein m'enveloppe et m'abîme. Alors, mes deux genoux pliés sur le carreau, ramenant sur mes yeux un pan de mon manteau, comme un homme surpris par l'orage de l'âme, les yeux tout éblouis de mille éclairs de flamme, je m'abrite muet dans le sein du Seigneur, et l'écoute, et l'entend voix à voix, cœur à cœur. Ce qui se passe alors dans ce pieux délire, les langues d'ici-bas n'ont plus rien pour le dire. L'âme éprouve un instant ce qu'éprouve notre œil quand, plongeant sur les bords des mers près d'un écueil, il s'essaye à compter les larmes dont l'écume étincelle au soleil, croule, jaillit des fumes, et qu'aveuglé d'éclairs et de bouillonnements, il ne voit plus que flots, lumière et mouvement. Ou bien ce que l'oreille éprouve auprès d'une onde qui des pics du Mont Blanc s'épanche, roule et gronde, quand, s'efforçant en vain dans cet immense bruit de distinguer un son d'avec le son qui suit, dans les chocs successifs qui font trembler la terre, elle n'entend vibrer qu'un éternel tonnerre. Et puis ce bruit s'apaise, et l'âme qui s'endort nage dans l'infini sans aile, sans effort, sans soutenir son vol, sans aucune pensée, mais immobile et morte et vaguement bercée, avec ce sentiment qu'on éprouve en rêvant qu'un tourbillon d'été vous porte et que le vent vous prêtant un moment ses impalpables ailes, vous planez dans l'éther, tout semé d'étincelles, et vous vous réchauffez sous des rayons plus doux, au foyer des soleils qui s'approchent de vous. Ainsi la nuit en vain sonne l'heure après l'heure, et quand on vient fermer la divine demeure, quand sur les gonds sacrés les lourds battants des reins tournent en ébranlant le caveau souterrain, je m'éloigne à pas lent, et ma main froide essuie la goutte tiède encore de la céleste pluie. Séminaire de 15 février 1793. Tandis que nous vivons au fond d'un monde à part, en Dieu seul, pour Dieu seul, et sous son seul regard, l'autre monde animé d'un autre esprit de vie, ou d'un souffle de mort, de colère et d'envie, mugit autour de nous, et jusqu'en ce saint lieu poursuit de ses fureurs les serviteurs de Dieu. Un grand peuple, agité par l'esprit de ruine, fait écrouler sur lui tout ce qui le domine. Il veut renouveler trône, autel, mœurs et lois. Dans la poudre et le sang, tout s'abîme à la fois. Oh, pourquoi suis-je né dans ces jours de tempête, où l'homme ne sait plus où reposer sa tête, où la route finit, où l'esprit des humains cherche, tâtonne, hésite entre mille chemins, ne pouvant ni rester sous un passé qui croule, ni jeter d'un seul jet l'avenir dans son moule. Métal extravasé qui bouillonne et qui fuit, court, ravage et renverse et dévore et détruit, et consumant la main qui touche à son cratère, déracine le siècle et l'homme de la terre. Heureux, du moins heureux, que la lueur de foi vive encore dans mon œil et marche devant moi, et séparant mes pas de la foule élancée, trace une route à part à ma pauvre pensée, route qui mène ailleurs que celle d'ici-bas, et que Dieu même éclaire, et qui ne finit pas. On dit que le pouvoir aux mains du roi se brise, et qu'en mille lambeaux le peuple le divise. Le peuple, enfant cruel, qui rit en détruisant, qui n'éprouve jamais sa force qu'en brisant, et qui, suivant l'instinct de son brutal génie, ne comprend le pouvoir que par la tyrannie. Force aveugle que Dieu lâche de temps en temps, ainsi que l'avalanche, ainsi que les eaux tendent, pour donner à l'éther un courant plus rapide, pour frapper un grand coup, et pour faire un grand vide. 25 février 1793. Ô jour, jour de douleur, de silence et d'effroi, la terre du royaume a bu le sang du roi, et le sang des sujets massacrés par centaines coule dans les ruisseaux comme l'eau des fontaines. Tout ce qui porte un nom, ou génie, ou vertu, sous le niveau du crime est soudain abattu. Le doigt du délateur au bourreau fait un signe. La seule loi du peuple est la mort au plus digne. Sa hache aime le juste et choisit l'innocent. Innocent, c'est son crime. Ô peuple ivre de sang, tu détruis de tes mains l'erreur qui nous abuse, et de tous les tyrans, ton exemple est l'excuse. 28 février 1793. Je creuse nuit et jour dans mes réflexions cet abîme sanglant des révolutions, du grand corps social, remède ou maladie, qui brise ou rajeunit la machine engourdie. De la nature humaine incalculable effort qui fait lutter en elle et la vie et la mort. Pour tenir les bassins égaux de la balance où l'on veut les peser, il faut un grand silence des passions du siècle et de ses intérêts. La main tremble à qui veut les juger de trop près. Comme aux juges placés trop bas dans la carrière, le but est trop souvent caché par la poussière. Mais jeune, enseveli dans l'ombre du Saint-Lieu, hors du siècle et voyant tout au seul jour de Dieu, peut-être juge-t-on de plus haut ce problème, ce procès éternel du temps contre lui-même, cette lutte fatale où le passé vaincu dit pour toute raison de vivre « j'ai vécu ». Qui peut sonder de Dieu l'insondable pensée? Qui peut dire où finit son œuvre commencée? Des mondes à venir lui dérober le soin? Lui dire comme au flot, tu n'iras pas plus loin? Devant cet océan, placer son grain de sable et trant d'un seul mot l'abîme imparissable? Moins insensé, celui qui dirait au soleil, prends mon heure, attends-moi pour luire à mon réveil, borne à mon horizon ta lumière féconde, et quand mon œil se ferme, éteins-toi pour le monde. Non ! Dieu n'a dit son mot à personne, le temps et la nature ici sont ses seuls confidents. Et si de sa sagesse il perce quelque chose, ne la cherchons que là, c'est là qu'elle repose. C'est là qu'à nos esprits, dans le doute noyé, elle soulève un coin du voile et dit « Voyez !» Qu'annonce la nature en sa marche éternelle? Où s'arrête sa course? Où se repose-t-elle? De ses mille soleils tournant sous l'œil de Dieu, rayons étincelants de son céleste essieu, lequel dort au milieu de sa courbe enflammée? Quelle route du ciel devant eux s'est fermée? Quelle vague des airs croupit dans son repos? Quelle goutte des mers dort dans le lit des flots? Quel océan, couché dans l'éternel rivage, cesse de dévorer ou d'enfanter les plages? Quels mots ont étouffé leurs creusets souterrains? Quoi donc était hier ce qu'il sera demain? Et du sable au rocher, de l'âme à la matière, de l'abîme des cieux jusqu'au grain de poussière, quel autre que Dieu seul peut dans ce mouvement reconnaître une forme, un être, un élément? On sent à ce travail qui change, brise, enfante, qu'un éternel levain dans l'univers fermente, que la main créatrice à son œuvre est toujours, que de l'être éternel, éternel est le cours, que le temps naît du temps, la chose de la chose, qu'une forme périt afin qu'une autre éclose, qu'à tout être la fin n'est que commencement, la souffrance travail, la mort enfantement. En vain l'homme orgueilleux de ce néant qu'il fonde croit échapper lui seul à cette loi du monde. Clôt son symbole et dit pour la millième fois « Ce Dieu sera ton Dieu, ses lois seront tes lois. » À chaque éternité que sa bouche prononce, le bruit de quelque chute est soudain la réponse. Et le temps, qui ne peut fixer ni ralentir, est là pour le confondre et pour le démentir. Chaque siècle, chaque heure, en poussière il entraîne ses fragiles abris de la sagesse humaine. Empire, loi, autel, Dieu, législation, tant que pour un jour dressent les nations, et que les nations qui viennent après elles foulent pour faire place à des tentes nouvelles. Bagages qu'en fuyant nous laissons sur nos pas, que l'avenir méprise et ne ramasse pas. Depuis ces jours obscurs, dont la tardive histoire a jusqu'à un moment entraîné quelques mémoires, avec combien de cieux le temps s'est-il joué? Combien de fois la terre a-t-elle secoué, comme l'arbre au printemps ses arides feuillages, les croyances, les lois, les dieux des autres âges? C'est demander combien de feuillages flétris ont engraissé le sol, formé de leurs débris, ou combien de ruisseaux et de gouttes d'orage ont fait enfler les mers, sans fond et sans rivage. Oui, l'Esprit du Seigneur travaille incessamment. Par l'Esprit des mortels, son aveugle instrument, il a donné pour vie à la pensée humaine ce flux et ce reflux qui rapporte et l'entraîne. S'il cessait de tourner dans ce cercle divin, s'il arrêtait un jour, ce jour serait sa fin. Mais pour lui, sur la route à ses pas accordés, une idée est toujours en avant d'une idée. Il s'élance, il l'atteint au terme d'un sentier. Il crée à son image un monde tout entier. Puis, à peine entre-t-il dans l'ordre commencé, qu'il demande à courir vers une autre pensée. La réalité la réalise et passe, et d'essor en essor, gagne un autre horizon pour le franchir encore. Ainsi, de siècle en siècle, il lègue ses chimères. De vérité pour lui, les vérités sont mères. Et Dieu, les lui montrant jour à jour, pas à pas, le mène jusqu'au Dieu, veut qu'il aille ici-bas. Terme qu'il a lui seul imposé dans sa sagesse, et qu'on n'atteint jamais en approchant sans cesse. Mais si l'Esprit de Dieu, travaillant par nos mains, à ces renversements condamne les humains, comment donc marque-t-il du sang pour des victimes les révolutions, ce solstice des crimes? Comment l'esprit d'amour, de justice et de paix Sert-il l'iniquité, la haine et les forfaits? Ah, c'est que dans son œuvre, il l'agite avec l'homme. La vertu les conçoit, le crime les consomme. L'ouvrier est divin, l'instrument est mortel. L'un veut changer le Dieu, l'autre brise l'autel. L'un sur la liberté veut fonder la justice, l'autre sur tous les droits fait crouler l'édifice. Puis vient la nuit fatale où l'esprit combattu ne sait plus où trouver le crime et la vertu. Chaque parti s'en fait d'horribles représailles. Les révolutions sont des champs de bataille où deux droits violés se heurtent dans le temps. Quel que soit le vainqueur, malheur aux combattants. L'un, possesseur jaloux d'un héritage inique, se fait un titre saint d'une injustice antique, veut que l'oppression consacre l'oppresseur et croit venger le ciel en défendant l'erreur. L'autre, le cœur aigri par une vieille offense, dans la raison qui, lui, ne voit qu'une vengeance, et s'armant à sa voix d'un droit ensanglanté, brûle, pille et massacre à coups de vérité. Ainsi l'abîme appelle un plus profond abîme. Qu'y faire? La raison n'a que le choix du crime. Faut-il que le bien cède et recule à jamais? Faut-il vaincre le mal à force de forfait? Devant ces changements, le cœur du juste hésite. Malheur à qui les fait, heureux qui les hérite. C'est mineur de 2 mars 1793. Ma pauvre mère, hélas, ma pauvre sœur, mon Dieu. Quoi, la tempête aussi descend en si bas lieu? Quoi, la maison de paix, de prière et d'aumône où la charité seule avait son humble trône n'a pas pu trouver grâce aux yeux des factions? Ce toit qu'avait couvert leur bénédiction, ce seuil où leur misère était sans cesse assise, où la veuve et l'enfant entraient comme à l'église, cette chambre où ma mère, avec sa douce main, pansait leurs pieds meurtris et leur rompait le pain, ils l'ont brûlée. Ils ont chassé leur providence, autour des murs fumants, mené l'horrible danse, tandis que la lueur qui montait de ces toits, ma mère et ses enfants s'enfuyaient dans les bois. Ainsi, tout ce que j'aime est arraché de terre. Ainsi, si je cherchais la maison de mon père, mais je ne verrais plus qu'un appât de mur noirci. Et le mendiant seul dirait « C'était ici ». Oh, je sens en moi-même à cette horrible image de ma mère fuyant les torches du village, qu'un Dieu seul peut donner le pardon aux humains. Et si je le brisais mon cœur entre ses mains à ma soif de vengeance, ou plutôt de justice, je ferais de mes jours 100 fois le sacrifice. Je me consacrerais pour punir ces bourreaux, 2 poignards dans les mains des dieux infernaux. Et j'irais de ce toit vengeant chaque parcelle, d'une goutte de sang payer chaque étincelle. Séminaire de 6 mars 93. Pardonnez-moi, mon Dieu, la vengeance est à vous. Ah, pour la désarmer, je tombe à vos genoux. Que la faute et l'horreur de ces jours de tempête retombent sur le temps et non pas sur leur tête. Séminaire de 8 mars 1793. Ce soir, un inconnu m'a glissé dans la main un rouleau recouvert d'un pli de parchemin. Mes yeux en ont soudain reconnu les tiritures, bien qu'une larme seule en fût la signature. Et tout en la lisant, je baisais 1000 fois, ô ma mère, ces mots où j'ajoutais ta voix, et ces 12 louis, ta dernière ressource, que ta main pour adieu jette encore dans ma bourse. Oh, que cet or sacré ne la quitte jamais, ou donné par l'amour dans son camp bien fait. Séminaire, 9 mars 1793. Ainsi me voilà seul, orphelin dans ce monde. Ma mère avec ma sœur est errante sur l'onde. Elles vont, au hasard des vents et de la mer, d'un parent inconnu cherchait le pain amer. Et sur un continent peuplé de solitude, changé de ciel, d'amis, de cœur et d'habitude. Fuis, pars, viens, mon enfant, dit ma mère, que Dieu te porte tout l'amour qui brûle en cet adieu. Je n'aurai pas un jour de paix en ton absence, quitte un sol dévorant que proscrit l'innocence, où la prière même est un crime mortel. Qu'est-il besoin de prêtre qui n'a plus d'autel? Ah, ma mère, pour moi, ta tendresse t'égare. L'esprit souffle-t-il moins quand l'étincelle est rare? N'en eussions-nous plus qu'une à rallumer ici, qu'une larme à sécher dans un œil obscurci? Ah, ça serait assez pour garder à la terre, pour couver dans nos seins le feu du sanctuaire, pour rester dans le temple et pour y revêtir la robe du lévite ou celle du martyr. Non, je resterai. De la grotte des Aigles au sommet des Alpes du Dauphiné, 15 avril 1793. Gravons au moins pour ma mémoire de ces 2 mois si pleins l'épouvantable histoire. Le peuple, soulevé sur la foi d'un faux bruit, force le seuil sacré, nous frappe et nous poursuit. Ils s'enivrent de vin dans leur dessein calice, hurlent en délirision les chants des sacrifices, et comme s'ils n'osaient vierge encore le frapper, ils violent l'autel avant de le saper. Les prêtres, n'élevant contre eux que la prière, sont par leurs cheveux blancs traînés dans la poussière. Les uns de leur vieux sang teignent ces chairs pavées, aux couteaux solennels d'autres sont réservés. Quelques-uns, comme moi, sauvés par leur jeunesse, par un front de 20 ans dont la grâce intéresse, s'échappent dispersés sous les coups de fusil et vont chercher plus loin le supplice ou l'exil. Une femme me prend par la main dans le nombre, me guide hors des murs à la faveur de l'ombre, me montre ses sommets brillants dans le lointain et me dit « Mon enfant, fuyez, voici du pain !» Je fus pendant 7 nuits à travers les campagnes, en dirigeant toujours mes pas sur les montagnes, le jour pour sommeiller, me couchant sous les blés, la nuit loin des sentiers à temps mais pas troublé. J'arrive au pied des monts, je traverse à la nage des torrents dont le flot me jette à l'autre plage. Un chasseur me découvre à la voix de ses chiens. Il change par pitié ses habits pour les miens. Je commence à gravir ces gradins de collines où des Alpes du Nord enfoncent leurs racines, immense piédestal par sa masse abaissée, qui sous le poids des monts semble s'être affaissé, et dans l'encaissement des roches éboulées cachent les lacs profonds et les noires vallées. Je remonte le cours de leurs tristes ruisseaux qui passent en lançant leur fumée au lieu d'eau. J'avance en frissonnant sur l'arche des cascades. Les pins m'ouvrent plus loin leur haute colonnade, je les franchis. J'arrive à ces prés suspendus sur la coupe des monts, verts tapis étendus, où les chalets de bois bordent les précipices. Un vieux pâtre y gardait un troupeau de génisses. Les yeux vers le soleil couchant, entre ses doigts, il roulait sans me voir un rosaire de bois. Cet aspect rend l'audace à mon âme attendrie. Je suis sûr d'un ami dans tout homme qui prie. Je l'aborde soudain, sans crainte, au nom de Dieu. Il se trouble en voyant un vivant dans ce lieu. Il croit voir un coupable en moi, je le rassure. Il écoute en pleurant ma touchante aventure, étend la feuille morte en lit sous le chalet et partage avec moi son pain noir et son lait. Le lendemain matin, il dit « Soyez en joie !» Je ne reverrai pas celui que Dieu m'envoie. Voyageant, suivant l'herbe et suivant la saison, mes vaches ont fini de paître ce gazon. Demain, je vais chercher d'autres vertes montagnes. Mais lorsqu'après l'hiver nous montons des campagnes, on nous donne en partant du pain pour tout l'été. Tout ce pain est à vous, car vous l'avez goûté. Les bergers, dont souvent j'ai nourri la détresse, remplaceront pour moi celui que je vous laisse. Mais vous ne pouvez pas me suivre au milieu d'eux. Ils se demanderaient pourquoi nous sommes deux. Vos blonds cheveux n'ont pas durci dans les tempêtes. La blancheur de vos mains leur dirait qui vous êtes. Vous ne pouvez non plus rester dans ce chalet, on le voit trop de loin fumer sur la forêt. Des soldats du bourreau, ces routes sont connues. Ils montent quelquefois jusque parmi ces nues pour aller de plus haut sous leurs serres surpris, comme l'oiseau de proie épier les proscrits. Mais venez, je connais une grotte trop profonde qu'aucun autre que moi ne connaît dans le monde. Rien n'y peut parvenir que l'éclair et le vent, et l'aigle que j'allais y dénicher souvent, quand dans mon jeune temps, le suivant sur ses cimes, mon pied comme mon œil se jouait des abîmes. Je puis monter encore avec l'aide de Dieu, c'est pour vous que sa main m'a découvert ce lieu. Vous y vivrez de peu, mais sans inquiétude, si votre ange suffit à votre solitude. On y peut puiser l'eau dans le creux de sa main, et quand je penserai que vous manquez de pain, tous les 2 ou 3 mois, sans qu'on puisse me suivre, j'apporterai de loin ce qu'il vous faut pour vivre. Remarquez bien la gueule ouverte à ce rocher. Venez de temps en temps, sous la brume, y chercher, car lorsque je viendrai vous porter votre vie, je n'irai pas plus loin, de peur qu'on ne m'épie. Nous partons. Nous posons nos pieds audacieux où le chasseur des monts n'ose poser ses yeux. Nous enlaçons nos doigts crispés au fil du lierre, aux cheveux de la plante, aux angles de la pierre. Du rocher chancelant qui s'enfuit sous nos pas, le bruit sourd et profond monte à peine d'en bas. Et des eaux du glacier, dont la poudre s'élève, le vent nous frappe au front comme le front d'un glaive. Devant l'abîme ouvert que ces eaux ont fendu, mon pied cloué d'horreur s'arrête suspendu. Du noir pilier des monts, la colonne d'écume tombe en rejaillissant dans le gouffre qui fume, hurle dans sa ruine avec tous ses ruisseaux, remonte en blanc flocon, retombe en vert lambeau, et remplit tout le vide où flotte en bas sa foudre. De vent, de bruit, de flots, de vertige et de poudre. Un seul débris de roc que le fleuve a broyé, tremblant au coup de l'onde et d'écume noyée, comme un vaste arc-en-ciel appuyé sur 2 cimes, se dresse en voûte immense et franchit des abîmes. Mon guide fait sur lui le signe de la croix, tâte d'un pied douteux les fragiles parois, s'élance, je le suis. Sous cette arche profonde, nous voyons à 100 pieds cet ouragan de l'onde passer comme le trait qu'un regard ne suit pas. Le pont miné, tremblant, résonne sous nos pas. Notre œil tourne, nos mains cherchent, notre pied glisse, mais notre ange à nos yeux voile le précipice, et déjà nous foulons sur le bord opposé un vallon d'herbe en fleurs par l'écume arrosée. La nature en ce lieu, plus amie et plus douce, festonne les rochers d'arbustes et de mousses. D'un pas moins essoufflé, nous montons ces remparts. Un horizon nouveau s'ouvre sous nos regards, et nous redescendons des pentes qu'elle incline, de coteaux en coteaux, de colline en colline, jusqu'à ce creux vallon qu'elle arrondit exprès pour n'étaler qu'à Dieu ses plus divins attraits. Là, mon guide s'arrête et me montre l'asile qu'offre la Providence à ceux que l'homme exile. Me découvre à son bruit la source sous le bois, m'enseigne à façonner le hêtre où je la bois, à sécher au soleil les mousses pour ma couche, à juger la saveur des fruits sains pour ma bouche, à dérober tout chaud dans le creux du rocher l'œuf pondu du matin que l'aigle y va chercher, à nourrir un feu lent qui couve dans l'écorce, à voler aux oiseaux le piège sous la morse, à lancer dans le lac le fil de l'hameçon qui fait frissonner l'onde au contact du poisson, à surbrader à son nid le faon qui vient d'éclore, à ravir le chevreau pendant qu'il tète encore, pour que sa mère aussi vienne au cri de sa faim, tendre pour le nourrir, sa mamelle à la main. Puis, me recommandant à cette providence qui nourrit sans travail et garde sans prudence, priez-la, mon enfant, tout est plein d'elle ici. Nous prions, je l'embrasse, il part, et me voici. Grotte des Aigles, 17 avril 1793, pendant la nuit. Ô nuit majestueuse, arche immense et profonde, où l'on entrevoit Dieu comme le font sous l'onde, où tant d'astres en feu, portant écrit son nom, font de ce nom splendide éclairer l'horizon, et jusqu'aux infinis où leur courbe est lancée, porter ses yeux, sa main, son ombre, sa pensée. Étoile, une limpide et claire, où je crois voir ces mots se répéter comme dans un miroir, pour que deux univers, l'un brillant, l'autre sombre, du Dieu qui les créa s'entretinssent dans l'ombre. Et vous, vent palpitant la nuit sur ces hauts lieux, qui caressez la terre et parfumez les cieux, et vous, bruit des torrents, et vous, pâle nuage, qui passez sans ternir ces rayonnantes plages, comme à travers la vie où brille un chaste azur, l'ombre des passions passe sur un cœur pur. Mystère de la nuit que l'ange seul contemple, cette heure aussi pour moi lève un rideau du temple. Ces pics aériens m'ont rapproché de vous, je vous vois seul à seul et je tombe à genoux. J'assiste à la nuit comme au divin spectacle que Dieu donne aux esprits dans son saint tabernacle. Comme l'œil plonge loin dans ce pur firmament, quel bleu tendre et pourtant quel éblouissement! On dirait l'eau des mers quand une faible brise fait miroiter les flots où le rayon se brise. Voilà sur l'horizon l'étoile qui descend. L'ombre des noirs sapins me voile le croissant. Sa mobile blancheur semble sous ce nuage une neige qui tombe et fond sur le feuillage. Ou doux vent que ma joue à peine a ressenti, quel immense soupir de leur cime est sorti. Il naît, il gronde, il baisse, il meurt. C'est la tempête qui passe avec ses voix et ses coups sur ma tête. C'est le voile où le vent siffle et tonne la nuit. Quand sur les sombres mers la vague le poursuit. Non, c'est un souffle mort dont la nuit les effleure. Oh, qu'à présent la brise avec tendresse y pleure. N'est-ce pas le soupir de quelque esprit ami qui dans ses sons si doux se les voile à demi, vient prêter à ses vents leur douce voix de femme et par pitié pour nous pleurer avec notre âme. Arbres harmonieux, sapins, harpes des bois, où tous les vents du ciel modulent une voix, vous êtes l'instrument où tout pleure, où tout chante, où de ces mille cris la nature s'enchante, où dans les doux accents d'un souffle aérien, tout homme a le soupir d'accord avec le sien. Arbres saints, qui savez ce que Dieu nous envoie, chanter, pleurer, porter ma tristesse, ou ma joie. Seul il sait, dans les sons dont vous vous enchantez, si vous pleurez sur nous, ou bien si vous chantez. Grotte des Aigles, 18 avril 93. Le sommeil m'a surpris sous le nocturne dôme. L'alouette a chanté mon réveil. Mon royaume, sous un jour de printemps en fleurs, m'est apparu. Et du matin au soir, mes pas l'ont parcouru. Qu'il est vert, et pour qui, pour sur ces hauts précipices, Dieu créa-t-il un jour ce vallon de délices, et d'un triple rempart élevé de ses mains enferma-t-il l'accès et la vue aux humains. Là, le gouffre tonnant où le glacier se verse, et qu'à travers la mort le pont de roc traverse. Ici, les pics glacés, qui ne fondent jamais, l'entourent à demi de leur neige sommet. Et plus bas, à l'endroit où son lit qui serpente semble au penchant des monts vouloir unir sa pente, le rocher tout à coup l'arrête et le retient, et d'un escarpement dans les airs le soutient. Sur ses parois polies par l'égout des ravines, nulle herbe, nulle fleur ne pend par ses racines. Et la voix des bergers, qu'on voit à peine en bas, se perd dans la distance et ne m'y parvient pas. À l'abri de ses flots, de ses rocs, de ses neiges, ne craignant des mortels ni surprise ni piège, je trouve comme l'aigle en mon air élevé tout ce que le désir d'un poète eût rêvé. Arbres, fils de leurs glands courbés sous les tempêtes, mais dont la foudre seule ose ébranler les têtes, lianes de leurs pieds à leurs fronts serpentants, qui bercent fleurs zénies sur leurs filets flottants, rayons dorés du jour qui sous leur nuit se joue, tremblant sur l'herbe au gré du vent qui les secoue, au gazon où sur l'or nagent les papillons, où les vents creusent seuls leurs traces en versillons. Herbe que chaque brise en molle vague roule, répandant mille odeurs sous mon pied qui les foule. Eau qui dort dans la feuille où l'ombre la brunit, où remplit jusqu'au bord ses coupes de granit. Écume des ruisseaux sur leurs pentes refleuries, se perdant comme un lait dans le vert des prairies. Lac limpide et dormant comme un morceau tombé de cet azur nocturne à ce ciel dérobé, dont le creux transparent jusqu'au fond se dévoile, où quand le soir s'éteint, la sombre nuit s'étoile, où l'on ne voit flotter que les fleurs des lotus, que leur poids de rosée a sur l'onde abattu, et le duvet d'argent que le cygne sauvage, en se baignant dans l'onde, a laissé sur la plage. Golfes étroits, cachés dans les plis des vallons, aspects sans bornes ouverts sur les grands horizons, abîmes où l'oreille écoute l'avalanche, cimes dans les terres bleues, noyant leurs flèches blanches, grandes ombres des monts qui brunissent leurs flancs, rayons répercutés des pics étincelants, air élastique et tiède où le sein qui s'abreuve croit boire en respirant une âme toujours neuve, bruit qu'on entend si loin descendre ou s'élever, silence où l'âme dort et s'écoute rêver, partout avec la paix, mouvement qui l'anime, des troupeaux de chamois qui volent vers l'abîme, chevreuils rongeant l'écorce, écureuils dans les bois, chants de milliers d'oiseaux qui confondent leurs voix, vols d'insectes dorés, bourdonnement d'ailes, de leurs prismes flottants semant les étincelles, fleurs partout sous mes pas et parfums dans les airs. Voilà ce que le ciel a fait pour ces déserts. Même date le soir, mais de ces lieux charmants le chef-d'œuvre est la voûte dans le rocher dont l'aigle a seul trouvé la route. À l'orient du lac et le long de ses eaux, la montagne en croulant s'est brisée en morceaux, et semant ses rochers en confuses ruines, a de leurs blocs épais entassé les collines. Ces rocs accumulés par leurs chutes fendues, l'un sur l'autre au hasard sont restés suspendus. Les ans ont cimenté leurs bizarres structures et recouvert leurs flancs de sol et de verdure. On y marche partout sur un tertre aplani que la feuille tombée et la mousse ont jauni. Seulement, quand on frappe, on peut entendre encore résonner sous les pas le terrain plus sonore. Cinq vieux chênes, germant dans ses concavités, y penchent en tous sens leurs troncs creux et voûtés. De leurs pieds chancelant les basses colossales, du granit au granit joignent les intervalles. s'enlacent sur le sol comme de noirs serpents et retiennent les blocs entre leurs nœuds rampants. Le plus vieux, suspendu sur l'une des ravines, la court comme un pont de ses larges racines. Puis, au rayon du jour pour mieux la dérober, étend un vaste bras qui laisse retomber. Et sous ce double abri de rameaux, de verdure, il voile à tous les yeux son étroite ouverture. Il faut, pour découvrir cet antre souterrain, ramper en écartant les feuilles de la main. À peine a-t-on glissé sous l'arche verte et sombre, un corridor étroit vous reçoit dans son ombre. On marche un peu courbé, sous d'humides arceaux, de circuit en circuit au bruit profond des eaux, qui, creusant à vos pieds un canal dans la pierre, murmurent jusqu'au lac dans leur solide ornière. Un jour pâle et lointain, lueur qui part du fond, guide déjà les yeux dans ce sentier profond. La voûte s'agrandit, le rocher se retire, le sein plus librement se soulève et respire. Le sol monte, trois blocs vous servent de degrés, et dans la roche vide, enfin, vous pénétrez. 20 quartiers, suspendus sur leur arête vive, en soutiennent le dôme en gigantesque ogive. Leurs angles de granit en 1000 angles brisés, leurs flancs pris dans leurs flancs, l'un sur l'autre écrasés, ont rejailli du poids comme une molle argile. L'eau, que la pierre encore goutte à goutte distille, a poli les contours de ces grands blocs pendants. De stalactites humides a revêtu leurs dents, et les abaissant en immense spirale, les sculpte comme un lustre au ciel des cathédrales. Ces gouttes, qu'en tombant leurs pentes réunies, ont creusé dans un angle un bassin de granit, où l'on entend pleuvoir de minute en minute l'eau sonore qui chante et pleure dans sa chute. Toujours quelque hirondelle au vol bas et rasant y plane, ou sur le bord s'abreuve en se posant. Puis remontant au cintre où l'oiseau frit le niche, se pend à l'un des nids qui borde la cordiche. Le rocher vif et nu enclos de toutes parts la grotte enveloppée en ses sombres remparts. Mais du côté du lac, une secrète issue fente entre deux grands blocs étroits inaperçus, en renouvelant l'air sous la tente ratiédie, laisse entrer le rayon et le jour de midi. On ne peut du dehors décruire l'interstice, le rocher pend ici sur l'ombre en précipice. Son flanc rapide et creux par le lac est miné. Au-dessus de la grotte, un lierre enraciné, laissant flotter en bas ses festons et ses nappes, étend comme un rideau ses feuilles et ses grappes, et se dressant entre grilles et croisant ses barreaux, sur la fenêtre oblongue épaissit ses réseaux. Je puis, en écartant ce vert rideau de lierre, mesurer à mes yeux la nuit ou la lumière, adoucir la chaleur ou l'éclat du rayon, ou, m'ouvrant de la main un immense horizon, du fond de ma retraite à ces mots suspendus, laisser fuir mon regard jusqu'à perte de vue. Auprès de l'ouverture est un banc de rochers où je puis à mon gré m'asseoir ou me coucher, lire au rayon flottant qui tremble sur ma Bible, ou, contemplant de Dieu l'ombre ici plus visible, les yeux sur la nature élever au Seigneur dans des transports muets, l'hymne ardent de mon cœur. Un air égal et doux, tiède à l'aide de l'onde, règne ici quand la bise ailleurs traînait ou gronde. Aucun vent n'y pénètre, et le jour et la nuit, dans ce nid de mon âme, on entend d'autres bruits que les gazouillements des becs des hirondelles, le vol de quelques mouches aux invisibles ailes, le doux bruissement de lierre sur le mur, ou des coups sourds du lac dont les lames d'azur, montant presque au niveau de ma verte fenêtre, renaissent pour tomber et tombent pour renaître, et suspendent du bord qu'elles viennent lécher leur guirlande d'écume aux parois du rocher. 20 mai 93. Voilà donc, quand ma tente ailleurs est renversée, la tente que je trouve ici tout adressée. J'ai déjà sur la roche étendue pour mon lit la feuille des forêts que la mousse amollit. J'ai déjà suspendu dans ma chaude demeure mon bâton et ma montre où j'entends marcher l'heure. Rassemblé du bois mort en tas pour mon foyer, vu la lueur du feu sous la grotte ondoyée, et passé dans la joie et dans la solitude un jour dont tant de jours me feront l'habitude.